Capernaum, Képharnaüm, comme disaient les habitants de Galilée de l'époque, juste un peu au-dessus. On a donc dans ce texte de Matthieu, chapitre 7, verset 13 à 27, c'est ça qui m'a été assigné. Entrez en passant par la porte étroite, car elle est large la porte et elle est large la route qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui entrent en passant par elle. Juste, je lis ça dans la version Claude Tresmontant, peut-être c'est pas tout à fait les mêmes mots, mais ça veut dire la même chose, hein, je vous rassure. Mais combien elle est étroite à la porte, et combien elle est resserrée la route qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux, ceux qui la trouvent. Gardez-vous des prophètes de mensonges. Ils viennent vers vous dans des vêtements de mouton, mais à l'intérieur, ce sont des loups qui déchirent et qui dérobent. À partir de leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Est-ce qu'ils récoltent en les prenant des buissons d'épines et des grappes de raisins, ou bien en les prenant des ronces, des figues? Ainsi, tout arbre qui est bon, ce sont des beaux fruits qu'il fait, et l'arbre qui est mauvais, ce sont des fruits mauvais qu'il fait. Il ne peut pas un arbre qui est bon faire des fruits mauvais, ni un arbre qui est mauvais faire des bons fruits. Et tout arbre qui ne fait pas de fruits, il est arraché et il est jeté dans le feu. Et par conséquent, c'est à partir de leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, celui qui est dans les cieux. Nombreux sont ceux qui me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, est-ce que ce n'est pas en ton nom que nous avons prophétisé? Et est-ce que ce n'est pas en ton nom que nous avons chassé les esprits impurs? Et est-ce que ce n'est pas en ton nom que nous avons fait des actes de puissance nombreux? Et alors je leur jurerai, depuis la durée passée, jamais je ne vous ai connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Et c'est pourquoi tout homme qui entend mes paroles, celles que voici, et qui les fait, il sera semblable à un homme sage qui a construit sa maison sur le rocher. Et elle est tombée, la pluie, et ils sont venus les torrents, et ils ont soufflé les vents, et ils sont tombés sur cette maison-là, et elle ne s'est pas effondrée, car elle était fondée sur le rocher. Et tout homme qui entend mes paroles, celles que voici, et qui ne les fait pas, il sera comparé à un homme stupide qui a construit sa maison sur le sable. Et elle est tombée, la pluie, et ils sont venus les torrents, et ils ont soufflé les vents, et ils sont tombés sur cette maison-là, et elle s'est effondrée. Et elle a été grande de sa chute. Vous avez donc, si j'ai bien compris, lu ensemble ces derniers dimanches l'intégralité du sermon sur la montagne. Je me trompe? Bon. Quel effet il vous fait ce sermon sur la montagne? Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez lu le sermon sur la montagne? Vous vous souvenez pas? Je vais vous parler de moi, alors. Moi, il y a un gars qui s'appelle Michael qui m'avait filé une Bible à l'époque sur le conseil d'un ami qui faisait dans l'ésotérique. Et j'avais ma Bible et je bouquinais ma Bible, vous savez où? Perché au sommet de la grotte des Druides au Pin Bérard. Vous connaissez la grotte des Druides à Uzès? Au Pin Bérard. J'étais planqué dans la forêt, là, calé entre deux rochers, puis j'avais ma Bible. Eh oui, je vous parle de moi, excusez. Et vous savez quoi? C'est pour ça que M. Michael m'avait dit, écoute, tu commences par le Nouveau Testament, histoire de ne pas me perdre dans les sacrifices rituels du peuple hébreu avec le Lévitique, par exemple. Il a bien fait. Alors j'ai commencé par Matthieu, et je me rappelle bien, j'étais calé sur mes rochers là, et je lisais Matthieu, et je suis arrivé sur tous les chapitres que vous avez déjà étudiés encore récemment, et je ne sais pas comment expliquer ça. Mais j'avais l'impression qu'ils avaient été écrits que pour moi. Le sermon sur la montagne. J'étais versé à l'époque avec ce pote-là dans l'ésotérisme, la sagesse orientale, choses qui concernent la philosophie, la politique. Je lisais du Karl Marx dans les couloirs du lycée. Je lisais du René Guénon avec les potes férus d'ésotérisme complexe. Et j'avais jamais lu correctement le Nouveau Testament. Pourtant, je suis né dans une famille catholique, j'avais fait ce qui est nécessaire à l'époque jusqu'à la communion solennelle, etc. Mais franchement, j'avais jamais lu le Nouveau Testament en entier. Jamais. Et là, je lis Matthieu, un truc que mes parents auraient dû me faire lire, mais c'était pas le cas. Et j'avais l'impression que ce n'était écrit que pour moi. En fait, j'ai été confronté pour la première fois de ma vie, j'avais 17 ans, c'était il y a 44 ans. Pour la première fois de ma vie, j'ai été confronté à la pensée du Créateur à mon sujet. En fait, Jésus passe pas de la pommade. Vous avez vu ça, vous l'avez lu. Je vous cite juste un truc. On va pas aller bien loin, mais si donc méchant comme vous l'êtes, tiens, prends-toi ça. Si donc, mais c'est pas loin. C'est verset 11 du chapitre qu'on vient de lire là. Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner des dons qui sont bons pour vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à qui le lui demande. C'est sévère quand même. Méchant, je n'ai pas l'impression de l'être autant que ça, mais pourtant, le constat de Christ sur le cœur humain, il est là tout le long de ces versets que vous avez réétudiés ensemble. En fait, j'ai été pour la première fois de ma vie confronté à la pensée du Créateur, me concernant. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très très personnalisé. C'est pour ça que ça a fait tellement de remuer de choses dans mon cœur. En fait, ce que Jésus nous dit, il nous parle du mariage, il nous parle de la discrétion dans notre religiosité, il nous parle du don, il nous parle du partage, il nous parle de tout un tas de choses, il nous parle d'apporter la paix, les heureux, là, vous les avez étudiés, les heureux. Ces choses-là, c'est vraiment la pensée de Dieu qui vient compléter de manière royale et divine les rudiments que sont les 10 commandements et la loi de Moïse pour les Hébreux qui ont perpétué la pensée divine, la prophétie et le prophétisme hébreu, jusqu'au Christ, parce que c'est là que ça devait aboutir. L'idée même de l'existence d'Israël, en fait, dans la pensée de Dieu, c'était l'incarnation. Fils de Dieu, comme tu disais, et fils de l'homme. Israël a été construit pour ça. Et les prophètes hébreux ont attendu ça. Et nous, nous en avons la quintessence dans l'enseignement. Vous savez quoi ? En fait, le sermon sur la montagne, ça a eu plus d'impact sur l'humanité que tous les philosophes de l'histoire. Tous, sans exception. Sans exception. Et quand Christ parle là, avec ce sermon sur la montagne, est-ce que vous pensez, même si, comme disait tout à l'heure Jean-Claude, il était très modeste, est-ce que vous pensez que le Fils de Dieu, honnêtement, n'avait pas, en disant ces choses, en établissant sa pensée que nous devrions recevoir de manière raisonnable ou rationnelle, dites ça comme vous voulez, pour changer de vie? Parce que quand on lit le sermon sur la montagne, il n'y a qu'un truc qu'on a envie, c'est de le vivre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, et il le dit lui-même, soyez parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Waouh! Ça nous fait un drôle d'effet, ça. En fait, qu'est-ce qu'il nous dit, le Seigneur ? C'est que si on fait ce qu'il nous dit dans le sermon sur la montagne, depuis le heureux, parce que c'est comme ça que ça commence, jusqu'à ce qu'on vient de lire, si on fait ça, si on le vit, ça, le terme faire, c'est le vivre. Hein ? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Si on vit ça, eh bien, l'image de Dieu est en train de se reconstituer en nous. C'est-à-dire son plan originel. D'avant la chute. C'est quelque chose qui doit changer nos vies si on le vit pour qu'on ressemble à notre Créateur et pour que l'image de Dieu soit formée en nous. C'est un processus qui démarre. Pour moi, ça a démarré au sommet de la grotte des Druides, à Uzès, il y a 44 ans. Et ensuite, pour rejoindre notre texte, j'ai poussé la porte, la petite porte. Hein ? La petite porte. Tout à l'heure, dans une prière, un frère a dit, et c'est vrai, que nous allons rejoindre notre Seigneur. Mais peut-être je peux le compléter sans offenser personne en disant que le jour où nous avons poussé cette porte, la petite, nous l'avons rejoint. Et nous l'avons rejoint dans un corps de chair en attendant d'avoir autre chose. Mais ça commence là. Le jour où je pousse la petite porte, je rejoins mon Créateur. J'accepte qu'il me change. J'accepte de vivre le sermon sur la montagne. J'accepte de lui ressembler à nouveau. C'est ça le sens du sermon sur la montagne. Entrer par la porte étroite. Et quand Jésus parle de cette manière-là, un peu plus loin, quand il parle des prophètes de mensonges, est-ce qu'ici quelqu'un s'imagine le Fils de Dieu pensant autre chose que ce qu'il est en train de dire va changer le monde? Ou je m'explique autrement. Jésus sait que ce qu'il vient de dire là va changer le monde. Pourquoi ? Parce que ça va changer les hommes et les femmes. Excusez-moi, les hommes avec un grand H. Ça va changer les gens, ce qu'il vient de dire. Et c'est vrai que ça va changer les gens. Et ça va changer les gens, un peu comme un processus. Au même titre que le pousser la porte et entrer dans la présence de Dieu, spirituellement, hein, je dirais intellectuellement, enfin comme vous voulez, avec notre cœur, avec notre âme, avec notre intelligence, avec ça nous rapproche de Dieu, eh bien, ces paroles vont changer le monde petit à petit. Alors, nous avons 21 siècles de christianisme derrière nous. S'il n'y avait pas eu le christianisme, que serions-nous ? Que serions-nous ? Je ne dis pas que le monde entier a changé. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que, comme avec les vierges folles et les vierges sages, toutes les nations qui ont la lumière du Christ ont changé dans leur constitution, dans leur loi, dans leur mentalité, dans le sens de quoi ? Dans le sens du sermon sur la montagne. Et puis, même si les gens qui nous dirigent aujourd'hui ne savent pas qu'ils le doivent à Christ, bien ils le doivent quand même à Christ. Ce changement-là, qui est pas seulement individuel, qui est aussi générationnel, qui est aussi social, et même, je vais plus loin, sociétal. Alors, qu'est-ce qu'on voit de nos jours ? Ce frère, le même frère qui priait tout à l'heure, disait qu'il y a des problèmes sur Terre, oui, mais c'est clair. Mais ce qui se passe, c'est que petit à petit, les hommes se détournent sciemment du Christ pour contrer le sermon sur la montagne, d'une manière ou d'une autre. Je vous parle que d'un truc, le mariage. Vous avez lu dans le sermon sur la montagne ce que Jésus dit du mariage ? Quand il a eu dit des trucs comme ça, il y a Pierre qui est allé voir, il a dit « Écoute, si c'est ça le mariage, il vaut mieux pas se marier. » En gros, c'est ce que Pierre lui a dit. Hein. Mais la barre, elle est vachement élevée. Elle est très haute, la barre que Christ nous propose sur le plan éthique, sur le plan sociétal. Très, très élevée. Aujourd'hui, on est en train de tout saccager. Je suis d'accord avec ce frère. On est en train de tout saccager. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de blasphémer contre l'esprit à titre collectif. Parce qu'on veut plus de la pensée du Créateur dans nos vies, au niveau général. Ça ne veut pas dire qu'au niveau individuel, on soit obligé de suivre le mouvement. Mais c'est ça qui se passe dans nos sociétés qu'on dit post-chrétiennes. C'est ça qui se passe. Et c'est là où il faut être radical. Je reviens à ça. Tout en étant doux. Il y a plein de choses en tant que chrétien, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, qui nous révulse dans la société dans laquelle nous avançons les uns et les autres. Savons-nous être radicalement contre, tout en étant doux et en donnant des explications plausibles? C'est la question. Gardez-vous des prophètes de mensonges. Quand Jésus dit ça, je sais, c'est le Fils de Dieu, il règne sur l'univers. Il ne pense pas qu'aux petits prophètes du dimanche, dans nos églises évangéliques. Excusez, on y reviendra peut-être, hein, aux petits prophètes du dimanche, mais vous savez, 7 siècles après Jésus-Christ, il y a un gars dans la péninsule arabique qui a commencé à la Mecque avec des versets magnifiques, des versets magnifiques qui tendaient à concilier tout le monde et essayer de rassembler autour de lui une communauté pseudo-chrétienne, puisqu'à l'époque, il prenait pour base la Torah et les évangiles. Et ce gars-là, il a commencé comme un agneau, comme un mouton, hein, comme dit le texte là. Et puis, ça commençait à mal tourner, les Arabes de la péninsule ont commencé à lui faire des histoires, les Juifs aussi. Bref, il est devenu un peu plus amer, un peu plus aigri. Il a dû filer à Médine, ça s'appelle Rijli, le déplacement. Et à Médine, alors là, il a sorti les versets que certains qualifient de sataniques, c'est-à-dire il faut tuer tous les mécréants, il faut etc. Ça, c'est le type absolu, le type définitif du faux prophète. Il commence doucement et il finit mal. D'accord ? Vous avez tous compris de qui je parle. On reconnaît un arbre à ses fruits. Est-ce que vous avez assez de discernement pour voir les fruits que ce prophète a semés sur la terre? Ou est-ce que vous avez peur d'être un peu trop radical dans ce type de jugement? On ne juge pas les hommes, on juge l'enseignement. L'enseignement a produit des fruits amers, de la violence, de la haine, de la discrimination. Vous allez me trouver radical?
Ah, écoutez,
c'est ce que j'ai reçu comme mandat, moi. Radical. Oui, ça c'est un faux prophète, un vrai, un costaud. Un qui a influencé 1 milliard d'individus sur la planète jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est un faux prophète. Est-ce que vous pensez que Jésus-Christ ne savait pas comment Mohamed allait vivre? Est-ce que vous pensez que la Bible ne parle pas de ce qui s'est passé pendant 20 siècles aujourd'hui dans les prophéties que nous laissent les apôtres? Jusqu'à Jean dans l'Apocalypse? Bien sûr que si. La Bible aborde ça de manière prophétique. Et quand Jésus-Christ parle du faux prophète, là j'en tiens un costaud. Ensuite, il y en a d'autres, hein, faux prophètes, hein, pas seulement sur le plan religieux. Je te le rends hein, après, Antoine. Je vais vous lire un texte des communistes vietnamiens. Je vous parlerai de Karl Marx, là. Des communistes vietnamiens, c'est une religion matérialiste, hein, le communisme. Juste pour que vous compreniez que c'est aussi une religion et que c'est aussi de fausses prophéties. D'ailleurs, si vous avez lu les uns et les autres le manifeste du Parti communiste, celui que moi je feuilletais dans les couloirs du lycée, ça commence comme ça. Le spectre du communisme plane sur l'Europe. C'est religieux, déjà. Non, mais c'est comme ça. Le spectre du communisme. Ça en envoie, ça en jette, hein. Et à la fin du communisme, dans les années 70, il y a, par exemple, c'est juste un tout petit texte, mais ça vous montre le truc. C'est un bonhomme qui s'appelait Tho, ou c'est un Vietnamien, hein, influencé par Marx, Engels, Staline, Lénine et tous les autres. Il écrivait ce poème dans un congrès du Parti communiste vietnamien. J'étais au Vietnam il n'y a pas longtemps. Je discutais avec les Vietnamiens, c'est extraordinaire. Surtout, voir à quel point ils n'en peuvent plus, quoi. Vive Ho Chi Minh, le phare du prolétariat. Vive Staline, le grand arbre éternel, abritant la paix sous son ombre. Non, mais c'est sérieux, ça a été écrit et publié. Tuez, tuez encore, que la main ne s'arrête pas une minute, pour que rizières et terres produisent du riz en abondance. En gros, faites de vos ennemis du fumier, quoi. Pour que les impôts soient recouvrés rapidement, pour que le parti dure ensemble, marchons du même cœur. C'est un cantique, hein. Adorons le président Mao, rendons un culte éternel à Staline. C'est pas religieux, ça? Non mais sérieux. Ces prophètes du 19e, là, matérialistes, ils ont créé une nouvelle religion. Le principe, c'est de regarder les fruits. Regardons les fruits. Je ne vous parlerai pas du nazisme, on en a assez parlé dans la société, mais bon, c'est aussi une forme de prophétie raciale. Hein. Mais tous ces gens-là qui ont influencé et qui ont provoqué des hécatombes, qui ont provoqué des misères atroces, des famines épouvantables, de la coercition, de l'emprisonnement, de la torture, mais tout ça, c'est des prophètes, hein. Il commence doucement. Vous savez, quand Marx écrit le manifeste du Parti communiste, il se présente comme un gentil. Il veut faire du bien aux classes populaires. Hein ? Il veut faire du bien aux classes populaires. Et il déplore leur misère. Il déplore leur misère. Résultat des courses, après des décennies de communisme, déjà, les chrétiens persécutés, mais ça c'est un domaine à part, hein, vous le savez, mais même les citoyens sous la férule de ces prophètes-là, sont les plus malheureux que la terre compte. Les fruits, toujours les fruits. Regardons les fruits. Jésus le dit clairement, on ne va pas chercher du raisin sur des ronces, hein, ou des figues. Hein. Par conséquent, c'est à partir de le fruit que vous les reconnaîtrez. Après, je reviens aux petits prophètes du dimanche. Les petits prophètes du dimanche... Ben oui, ça existe, hein. Vous en connaissez peut-être. Ok ? Il y en a sur tous les continents, hein. Faut pas vous croire épargné d'une manière ou d'une autre. Dans tous les peuples, dans toutes les églises dites chrétiennes, il y a des petits prophètes du dimanche qui guérissent les mêmes tous les dimanches, qui ponctionnent la dîme aux mêmes tous les dimanches, qui promettent la prospérité et qui sont très prospères eux-mêmes. Ça aussi, ça existe. Hein. Les gens qui vous disent qu'ils font des miracles. J'en ai même un qui m'expliquait qu'il avait reçu un témoignage d'un témoignage d'un témoignage d'un témoignage de quelqu'un qui avait fait repousser un membre. Vous savez, comme un lézard fait repousser sa queue. Tout ça au nom de Jésus-Christ. Je me dis, mais comment voulez-vous convaincre quelqu'un de sensé à ce genre de christianisme. Ce que Christ nous propose, c'est de rentrer par la petite porte. Et il nous dit, peu nombreux sont ceux qui la trouvent. Quand il parle ici de perdition, je ne sais même pas s'il parle du feu éternel, hein, excusez, hein, mais le mot perdition ici, dans le texte original, qui à mon avis est hébreu et qui a été traduit en grec, ça veut dire l'égarement. En fait, ce que Jésus dit, c'est si vous ne rentrez pas par la porte étroite, vous allez rentrer par la grande porte de l'éparpillement. Vous allez vous égarer. Le mot perdition peut être comparé à ça. Quand on se perd, c'est qu'on a perdu son chemin. Excusez-moi, je suis peut-être un peu limite quand je donne cette idée-là. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas ça que Christ veut nous dire ? Le plan de Dieu, c'est au travers du prophétisme hébreu, nous amener à Jésus-Christ, fils de l'homme, fils de Dieu, pour nous donner le salut, parce qu'il est mort. Et ça, ça nous touche, parce qu'on va tous y passer, excusez-moi, à quelques rares exceptions près, si Christ revient bientôt. On va tous y passer, mais il est ressuscité. Et ça, ça nous touche aussi, parce que c'est ça que nous attendons. Et puis, alors, c'est pas du tout naturel chez nous. Hein. Je sais pas si vous imaginez, c'est plus facile de croire à la réincarnation, hein, clairement. Mais Dieu nous dit, non, réincarnation, niet, on ne meurt qu'une fois, après vient le jugement. Dieu nous dit... Je vais vous ressusciter. Ça veut dire, en gros, je vais, dans ma mémoire, conserver les détails de votre ADN et votre esprit. Ce que disait saint Augustin, c'est vos mémoires. Je vais conserver votre ADN et vos mémoires et je vais vous refaire à zéro. C'est ça que nous croyons. C'est la résurrection. Il est mort pour nos péchés. Hein, et ça, c'est l'aboutissement du ritualisme hébreu. Vous savez, Jérusalem, c'était un abattoir en premier lieu, hein, surtout le temple. Hein, les animaux, l'hécatombe, elle était continuelle. Hein, et ça s'est arrêté 60 ans après Jésus-Christ, parce qu'il n'y avait plus besoin. Le sacrifice parfait était accompli. Ok ? Et ensuite, on peut assurément se dire... il est ressuscité. Donc, je ressusciterai aussi. Même si mon corps est dispersé en cendres, enfoui dans la terre, est-ce que vous pensez que le Créateur est incapable de se souvenir des détails de votre échelle d'ADN, de votre hélice, et de vos vécus, de votre esprit, de vos mémoires? Bien sûr que non. Il est capable de tout reconstituer, comme ça. Puisqu'il est Dieu et que pour lui le temps n'existe pas. Ou autrement dit, le temps reste circulaire pour lui. Vous savez, quand Dieu vous regarde, moi ça me fait plaisir de m'imaginer ça. Il me voit quand je faisais 2,7 kg, c'est-à-dire au début, et même avant. Et il me voit quand je vais mourir. Et que je prononcerai son nom une dernière fois. Vous savez, j'aime bien cette image. Chaque respiration, Yahweh, c'est le nom de Dieu. Chaque fois que vous respirez, Dieu vous fait prononcer son nom. C'est pas pour rien. Alors les prophètes du dimanche, ils sont fatigants. Pourquoi ne pas aborder le salut sous le signe du raisonnable? Pourquoi il nous faut toujours des signes? Alors Jésus le dit clairement. Oh là là, vous me cherchez parce que vous avez mangé à votre faim. Vous voulez voir des miracles. Mais le Christ, c'est pas ça qu'il cherche. Mais Dieu, ce qu'il cherche, c'est des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, avec toute la collaboration de leur intelligence. C'est ce que dit Paul, hein, ailleurs, dans Corinthiens 14, si on veut bien le lire à l'endroit, parce que bien souvent, il est lu à l'envers. Hein. Je préfère dire, combien de paroles? 5, je crois, avec mon intelligence, que 10 000 paroles en langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos espèces de trans, là, bizarres, n'ont pas grande valeur. Ce qui est important, c'est que notre intelligence soit mêlée à l'affaire. C'est que nous comprenions réellement à qui nous avons affaire. En Jésus-Christ. J'ai 44 ans de christianisme derrière moi. Je vous assure, il n'y a pas bien longtemps que je commence à savoir qui est Jésus. Et il faut ça. Qui est vraiment Jésus? Depuis quand il est annoncé? Et jusqu'à ce qu'il revienne. Qui est-il vraiment? Nombreux sont ceux qui me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, Adonai, Adonai. C'est pas en ton nom qu'on a prophétisé? Ouais, mais alors, vu ce qu'il est censé leur répondre, depuis la durée passée, jamais je ne vous ai connu. Comme quoi, on peut rater le coche, même en se disant chrétien, et passer, perdons notre temps, passer notre vie dans l'illusion. Dans l'illusion. Ce que Dieu demande à chacun d'entre nous, c'est une implication intelligente dans les choses qui le concernent. Et cette implication intelligente, elle nous gardera mieux dans la fidélité au sermon sur la montagne que toutes les expériences incontrôlables qu'on peut faire dans notre vie chrétienne. Ça veut dire qu'il faut qu'on étudie sa parole sérieusement. Et je vous assure, avec les amis, les jeunes là, de l'église où je suis, on a étudié la Genèse, l'Apocalypse, mais c'est absolument incroyable ce qu'on peut retirer de ces textes. Incroyable. Est-ce que nous avons entrepris cette démarche raisonnable, intelligente, dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu? Dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu. Et ça finit avec ce texte-là. C'est pourquoi tout homme entend mes paroles, etc. Vous connaissez, vous le chantez. Hein, le sage sur le roc a bâti sa maison, etc., etc. J'aimerais vous lire deux textes pour terminer. Le premier, parce que ça rejoint ce texte que nous lisons, vous ne pouvez pas imaginer que Jésus-Christ a puisé ailleurs que dans la parole précédemment donnée aux Hébreux ce qu'il est en train d'enseigner à ses disciples. Il l'a puisé de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, David, tu parlais tout à l'heure, le roi David, a écrit les choses suivantes. Psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise. Le méchant de tout à l'heure, là, méchant comme vous êtes, à qui le péché est pardonné, Heureux l'homme à qui Yahweh, l'Éternel, c'est une traduction, n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je te fais connaître ma faute. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, à Yahweh. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes, c'est là où ça rejoint notre texte. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Et là, c'est Dieu qui parle, je t'instruirai. Et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, Yachar, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Il y a des mots qui ne veulent plus rien dire dans notre christianisme du XXIe siècle. Il y en a un en particulier qui est très, très, très affaibli. C'est le mot « croire ». C'est le mot « croire ». « Je crois ». Tu es sûr de ça ? Ouais, je crois. Ben oui, c'est ça que c'est devenu. D'accord ? Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Le mot qui est utilisé en hébreu, et c'est le même qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est pas « je crois ». C'est « je suis certain de la vérité ». Et c'est là où Christ veut nous amener. Je répète, c'est pas « je crois », c'est « je suis certain de la vérité qui est en Jésus-Christ ». Et pour parler de rocher, comme je vous disais que Christ tire son enseignement de l'Ancien Testament, qu'il a lui-même fait écrire. D'ailleurs, vous vous rappelez l'histoire là, de la femme adultère ? J'en parlais avec les jeunes de mon église il n'y a pas bien longtemps. Hein ? Moïse nous a dit, quand on surprend une telle femme, il n'y a pas le gars, il faut la lapider. Jésus, vous savez ce qu'il a fait ? Il s'est baissé, le mot est fort, hein, il se met à genoux. Et il se met à écrire par terre. Vous savez ce qu'il écrit par terre ? Allez, plus fort.
Celui qui est sans péché, jette la pierre.
Ah, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce qu'il écrivait par terre, dans la terre, là ? On ne le sait pas. Tu te l'es demandé déjà ? Ok. Rappelez-vous, là, l'histoire de l'Exode, là. C'est qui a écrit sur les pierres, les tables ? Et comment il a écrit sur les pierres ? C'est précisé dans l'Exode. C'est le doigt de Dieu. Quand les Juifs viennent le voir en disant « il faut la tuer », lui, il s'assit par terre et il écrit le décalogue. En fait, il est en train de leur dire « écoutez les gars, la loi, c'est moi qui l'ai écrite. Ok ? Alors, je vais m'en servir. Parmi vous, là, il y en a un qui a toujours respecté un de ces 10, là, commandements ? Peut-être les gars, ils ont vu écrire. Vous savez, oh punaise, il écrit le décalogue. Et là, je me sens visé. Et les plus vieux commencent à partir, et puis de plus en plus, et puis les derniers, ils s'en vont. À la fin, il reste que la femme. Le doigt de Dieu a écrit les décalogues, et c'est lui, il en fait ce qu'il veut. Et il sait très bien pourquoi il l'a écrit, c'est pour nous montrer qu'on est méchant, au fond, depuis la chute. Et sa miséricorde s'exerce, d'abord sur cette femme, et puis sur nous tous, de la même manière. Qu'ainsi tout homme pieux te prie autant qu'en valable. J'ai dit, je confesserai mon péché à l'Éternel, je ne cacherai pas mes péchés. Arrêtons, le sermon sur la montagne, vous savez à quoi il sert? Il sert à nous rendre vrais devant Dieu. Il sert à nous rendre vrais. Et je finis donc avec cette histoire de rocher, Ésaïe 26, au verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. C'est Christ qui dit « Basez votre vie sur mon enseignement et vous serez à l'écart de l'épreuve fatale. » D'ailleurs, juste en passant comme ça, bizarre, ce verset d'Ésaïe 26, « Confiez-vous en Yahweh à perpétuité, car Yahweh est le rocher des siècles. » Confiez-vous en Yahweh à perpétuité, car Yahweh est le rocher des siècles. Trois fois. Père, Fils, Esprit, c'est ça qu'il nous révèle. Vous savez quoi? Et je finis avec ça. Quoi que vous disiez, quoi que vous choisissiez, quelle que soit la porte que vous allez pousser, la petite ou la grande, là où il n'y a pas grand monde et là où il y a beaucoup de monde, là où on se trouve Dieu, là où on s'égare, quel que soit votre choix, la tempête va venir. Qui que vous soyez, la tempête va venir. Je sais ce qui se passe chez toi, Serge. La tempête vient. Toujours. Est-ce que vous imaginez que Dieu est un Dieu... Excusez-moi d'être direct, hein. Qui nous a réservé que des bonnes choses dans notre vie, que des choses douces, agréables, sympas, etc. Non. Le Dieu qui nous a mis sur terre, dans les circonstances actuelles. Rappelez-vous Job. Qu'est-ce qu'il est allé tenter Job? Il était déjà fidèle à Dieu. Alors s'il est allé tenter Job, qui était déjà fidèle à Dieu, et puis pas qu'un peu, pourquoi il ne me tenterait pas moi, d'une certaine manière? Pourquoi il ne lâcherait pas sur moi la tempête? Christ ne cache pas ça. Que tu sois sage ou que tu sois stupide, la tempête va venir. Sous une forme ou une autre. La différence entre le sage et le stupide, c'est que ta maison va tenir si tu es sage et ta maison va s'écrouler si tu es stupide. Mais dans les deux cas, la tempête vient. Puis si ce n'est pas tout de suite, hein, c'est dans quelques années. C'est dans quelques... Je dis ça avec crainte et tremblement. Hein. Dieu m'a béni au-delà de toute mesure jusqu'à aujourd'hui. Mais la tempête va venir. Parce que Dieu nous met à l'épreuve d'une certaine manière, même si dans nos prières, comme notre Père, on lui demande de ne pas le faire, ne nous conduit pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Ça viendra quand même, à un moment ou à un autre. Est-ce que ma maison va tenir? C'est la question qu'on pose. Si je prends au sérieux le sermon sur la montagne, si toute mon intelligence, toute ma volonté, mon cœur, mes affections sont bâties sur le sermon sur la montagne, il se peut que ma maison tienne. Amen.